أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون أواخر آيات سورة المعارج إن شاء الله نكمبليتون سوسوا لا سورة المعارج بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا يوم الدين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي avant toute chose nous remercions Allah Rabbul Izzah qui nous a donné la possibilité de compléter un mois de Ramadan. Nous sommes aujourd'hui à peu près une semaine un peu plus du Eid al-Fitr et nous demandons à notre Seigneur dans sa grâce, sa clémence d'accepter nos a'mal qu'il nous a donné tawfiq d'accomplir durant le mois béni. Premièrement, et deuxièmement, qu'Allah nous accorde istiqama, la fermeté sur les bonnes actions que nous avons démarrées durant le mois béni, principalement Qiyamul Layl, le Tahajjud, les jeûnes lundi, jeudi et Inch'Allah les six Shawwal qu'on essaiera de faire durant ce mois. Et qu'Allah donne istiqama également sur les salats accomplis en jama'a à la masjid, idéalement au premier rang avec le takbir oula, de bonnes habitudes qu'on a essayé de prendre durant le mois béni. Et qu'il serait totalement incohérent de les délaisser comme si que la période bénie était terminée, ben la piété était terminée également. Non, bilax, bien au contraire, le Ramadan a pour objectif de nous éduquer vers la taqwa, pour que nous prenions d'année en année un peu plus de sirat al-mustaqim, que nous avancions encore plus sur le droit chemin. Et nous demandons à notre Seigneur également d'accepter les doigts que nous avons faits durant ce mois béni, et qu'Allah exauce tous nos souhaits, et plus même que ce que nous avons pensé à demander, et autre dua, il y en aurait tellement, c'est qu'Allah accepte notre istighfar, notre demande de pardon, et que l'intégralité de nos péchés ait été pardonnée durant ce mois béni, et que nous ayons pu bénéficier des vertus, des récompenses de la nuit du destin. Maintenant, le istighfar ne doit pas laisser place à un retour vers le péché. Donc, après le istighfar, demander à Allah de nous éloigner du haram et au cas où si c'est le haram qui se présente à nous, ben, de nous donner la force de nous éloigner, de dire non et donc de refuser le haram pour Allah. Et après avoir passé, Inch'Allah, une des nuits impaires de la dernière décade avec espoir que cela correspondait à la nuit du destin, nous sommes tous conscients que nous avons cumulé une grande quantité de récompenses. Laylatul Qadr khayrun min alf shahr. Et nous avons tous espoir que ben, nous avons animé hein, cette dernière décade, que ce soit les nuits paires ou impaires, avec des qiyamul layl, les du'as et nos a'mal, qu'Allah nous a accordé cette récompense exceptionnelle de 83 années de ibadah. Maintenant, nous devons préserver ces hasanat, les protéger. Parce qu'il y a l'étape d'accomplir de bonnes actions, il y a l'espoir qu'Allah accepte, il y a ensuite l'étape de les préserver. Préserver les bonnes actions, cela transite par un éloignement de certains péchés qui sont fatals aux bonnes œuvres. Qui me donne un exemple de péché qui est très néfaste et qui peut annuler les bonnes actions?
Le riba.
Le riba, la médisance. Parce que lorsque le mu'min accomplit la médisance, le jour de Qiyama, la personne, l'opprimé, hein, se présentera devant le tribunal d'Allah, et ça fait partie du hadith du Mouflis, et la personne réclamera son droit, et ce seront les bonnes actions du mu'min qui seront reprises et données à la personne sur qui on avait parlé, justement ou injustement. dans les deux cas, ça reste du riba, comme le professeur Allahu alayhi wa sallam nous l'a enseigné. Parmi ces actions, il y a également la hasad, la jalousie. Le professeur nous a dit que la jalousie détruit les bonnes actions comme le feu consume le bois sec. La métaphore est parlante. Ça nous fait comprendre que quand dans notre cœur il y a un sentiment négatif ou de jalousie, comme il dit en créole, un râle-cœur, quand on voit quelqu'un qui a quelque chose qu'on n'a pas, c'est que tu es malade. Spirituellement, tu as une maladie, et la jalousie, c'est une grande maladie. C'est une maladie qui est grave. À nous d'essayer de régler ce problème en développant iman billah, iman bil qada et wal qad, la foi en Allah, la foi sur le destin. Et parmi les noms d'Allah qu'on doit essayer d'étudier dans iman billah, c'est que le fait qu'Allah, il est Rahman Rahim, et Allah également Razzaq, c'est celui qui donne la subsistance, c'est qu'Allah est Al-Ghani, celui qui est riche. Donc ce qu'Allah a donné à ton voisin, il peut te le donner. Demande à Allah. Et ne souhaite pas du mal pour ton voisin. Et ne pense pas que, ah ben si lui il a eu ce travail, moi je n'aurais plus rien. Non. Allah est capable de donner à Muhammad, à Ishaq, à Ibrahim, à Abdullah, à tout le monde. D'accord? C'est pas parce que lui il a fait la demande, il a eu cette fille que je convoitais, que maintenant il n'y aura plus de fille pour moi. Allah te donnera meilleur. Il n'y a que plutôt que d'être jaloux, tu t'en remets à Al-Ghani, celui qui est riche. Et son trésor est inépuisable, illimité. On ne peut même pas quantifier quelle est la quantité de trésors, de bienfaits qu'Allah seul le sait. Il n'y a pas de limite. Donc, plutôt que d'éprouver de la jalousie, demande la même chose. Demande la même chose sans souhaiter du mal pour ton prochain. Parce que ce n'est pas parce qu'il chute que tu auras plus pour toi. Maintenant, si ton souhait intérieur c'est qu'il chute, là on n'est plus dans le domaine de la jalousie. Là on est dans le domaine de la méchanceté, d'un cœur animé de haine. Et donc là il y a un travail à faire sur Al-Hubbu fil-Lah, aimer son prochain en Allah. Donc notre tazkiyah se trouve à travers les ayats du Coran, à travers les hadith, à travers l'étude des noms d'Allah. Donc plus on avance dans nos bases de dîn, la parole d'Allah, la parole du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, le mu'min arrive à comprendre sa religion et à se réformer intérieurement. Donc c'est une étape importante après une semaine où... C'était quand le Eid, mercredi? Mercredi, hein? Mercredi. Donc on est à jeudi, vendredi, on est à 9 jours du Eid. Ben, on doit déjà être capable de faire un bilan. Est-ce que depuis 9 jours, comme durant le mois de Ramadan, j'ai eu les 9 tahajjud? Première question. Est-ce que j'ai eu mon quota de 15 minutes de doua avant le maghrib, même 10 minutes, comme je le faisais avant de rompre le jeûne? Est-ce que j'ai repris un contact avec le jeûne, soit par les 6 shawal, ce qui serait le top pour démarrer, ou alors j'ai jeûné lundi, jeudi, et ainsi de suite. Donc, est-ce que j'ai pu contrôler mon regard comme durant le mois béni? Tout ça, il faut qu'on se pose des questions. On est dans une religion où le lien et la relation est directe avec Allah, et on ne transite pas par une personne. On n'a pas besoin d'aller voir un imam, un fundi, un mufti pour dire que voilà, je me confesse, j'ai fait tel péché. Aucunement. C'est un lien entre nous et Allah. Et le mu'min, avant de dormir tous les soirs, se doit de faire son propre hisab, son propre compte, et faire un bilan de sa journée et voir qu'est-ce que j'ai fait de bien et qu'est-ce que j'ai fait de mal. Et quand on constate qu'il y a eu tel dérapage, par exemple, si je vois qu'à l'arrêt de bus, voilà, j'ai regardé ce que je n'avais pas regardé, ou dans le bus, ou dans les embouteillages, ou dans la caisse, au supermarché, ou en clientèle, peu importe, je dois identifier le lieu du péché et mon comportement. Et ensuite, soit je peux m'éloigner du lieu de péché. Bon, maintenant, quand c'est mon espace de travail, on ne peut pas. Si je prends le bus à cet endroit, c'est mon endroit. Mais y aller armé spirituellement. Si le lieu de fitna, c'est tel endroit, d'accord, ben avant d'y aller, je me renforce par les adhkar. Et je m'efforce de faire les adhkar jusqu'à arriver à cet endroit et de rester en dhikrullah durant mon stationnement dans cet arrêt de bus ou dans cet endroit ou dans ce magasin ou peu importe, et faire en sorte que le dhikrullah occupe ma langue, on va dire, mon cœur, et de ce fait, incha'Allah, le cœur ne sera pas tenté de regarder ce qui est haram. Parce que dire baisser le regard de manière aussi brute, c'est compliqué. C'est compliqué à notre époque. baisser le regard, ça c'est devenu un des plus grands mujahadins. Donc, juste dire baisser le regard, ne pas regarder, ben là, on peut être sûr que Shaitan va peser de tout son poids pour dire lève pour Allah, regarde la beauté de la création divine. Il va t'amener plein de waswasa, d'insufflation. Non, on ne regarde pas pour. Vous ne voulez pas pervers, c'est juste que ça c'est des sœurs, ça c'est des créatures de Dieu. Il faut. Regarde, Allah a créé celle-là comme ça, celle-là a de longs cheveux, celle-là a des cheveux blonds, celle-là elle est rousse. Arifillah, tu es en train de tomber les pieds joints de le pied de Shaitan. On t'a pas demandé de distinguer la blonde de la rousse, de l'asiatique, de la brune. Oublie ça, tout ça c'est wasawis, oui, c'est le Shaitan. En fait, Shaitan, on expliquait ça il y a, avec un groupe de jeunes, c'est un siècle privé ça. Shaitan arrive à identifier la faiblesse de chaque mu'min. Lui il a une faiblesse, je dis pas lui hein. Lui il a une faiblesse pour les femmes. Lui il a une faiblesse pour l'argent. L'argent facile. J'ai envie d'acheter telle chose, j'arrive pas à résister, je vais à la banque et je connais bien mon banquier, il me fait le prêt avec intérêt. J'ai envie d'investir, j'ai pas l'argent mais je le fais. Je suis aspiré par le business. Ça c'est une faiblesse aussi. Il y en a d'autres, leur faiblesse c'est peut-être la nourriture. Il passe près d'une pâtisserie, il voit un beau gâteau, je peux pas résister. Oui, mais tu sais pas, c'est halal, mais il est trop beau ce gâteau. Il voit une forêt noire ou un bavarois, et ainsi de suite, peu importe. Non, j'ai besoin. Chacun a sa faiblesse. Et quand Shaitan, vous mettez la faiblesse de les gâteaux, hein, c'est moins difficile à gérer. Quand Shaitan a vu, il a aperçu quel est ton point faible spirituel, il ne te lâchera jamais. Jamais. Il est le maut. Jusqu'à la mort, il appuiera sur ce point qui fait mal. S'il a vu que tu as un bleu ici, et que ça fait mal là, c'est là qu'il va appuyer. Parce qu'il sait que quand il n'y a plus là, ça fait réagir. Donc, Shaitan va travailler sur la faiblesse spirituelle de chacun d'entre nous. Et le mu'min se doit d'identifier ses faiblesses, d'où le travail de hisab qu'on fait tous les soirs, et d'y remédier, trouver la solution. Et je reste persuadé, et j'ai une intime conviction, que l'étude des noms d'Allah nous permet de régler tous nos problèmes spirituels. Un, l'étude des versets du Coran nous apporte une telle richesse de foi, une telle connexion avec Allah, qu'on finit par avoir honte de désobéir à celui qui a révélé d'aussi belles paroles. Trois, l'étude des ahadiths, des paroles de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, renforce de notre cœur l'amour qui est déjà présent pour le Habib sallallahu alayhi wa sallam à un tel point qu'on a envie de l'imiter et d'avoir le même comportement que lui. Et on sait que jamais, que ce soit le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou que les sahaba qui ont rapporté les hadiths, jamais ils ne se laisseraient aller à de telles dérives dans le regard, ainsi de suite. C'est-à-dire qu'en se raccrochant au wahi, au Coran, à la sunna, et en étudiant, en essayant de connaître Allah par l'étude de ses noms, on se renforce spirituellement. On a un quota de ilm qui est tellement fort qu'à un moment donné, le cœur ne penchera même plus vers ses futilités, vers ce qui est haram. Qu'Allah nous permette de travailler ensemble, d'avancer progressivement. Le parcours est très long. Et que, au fur et à mesure, on voit le résultat. Oui, dans le mois de Ramadan, on est étonné, on est impressionné par soi-même. Comment j'arrive à baisser le regard, j'arrive à la masjid, à l'œil et tout. Ça, c'est un nour min Allah. Hidayah min Allah. Allah fait descendre une guidée durant ce mois béni, que les cœurs, ben, ils s'orientent vers le salat al-mustaqim. Mais notre but, c'est de demander à Allah, ihdina, guide-nous, c'est-à-dire, garde-nous sur le droit chemin. Ah non, la traduction c'est très simple. Non, étudier le nom d'Allah c'est connaître le sens de chaque nom. Ça, il y a des livres qui ont été rédigés, c'est magnifique. Il y a un livre qu'on utilise, un nouveau livre que je viens d'acheter aussi. Le mardi soir au centre-ville, on étudie le nom d'Allah. Donc on aura l'occasion de présenter cet ouvrage. Il y a deux ouvrages qui sont bien faits, qui ont été traduits en français. Lorsqu'on étudie chaque nom d'Allah, c'est un parcours qui est très loin. Ça nous donne un tel amour pour Allah, parce que plus on connaît quelqu'un, plus on l'aime. Et je suis en train de réfléchir à ça il y a quelque temps. Il n'y a personne de notre entourage qui peut être qualifié par 99 attributs. D'accord ? Par exemple, on dit à quelqu'un, parle-moi de ta maman. On dit, ma maman, elle est gentille, elle est belle, elle est généreuse, elle est attentive, elle est affectueuse, ainsi de suite. 5, 6, 10, d'accord ? Parle-moi de ton patron. Mon patron, en général, il n'y a pas grand-chose à dire. Parle-moi de ton épouse. Parle-moi de tes enfants. Mes enfants, ils sont câlins, je les aime, et ainsi de suite. Mais et plus on connaît la personne, ben plus on trouve un centre d'intérêt. Allah nous a révélé 99 de ces noms. Et les ulama aqida disent de chaque nom découle un attribut d'Allah. C'est-à-dire que Allah nous a donné tous les moyens pour le connaître. Et plus on va aller dans ce sens, connaître notre Seigneur, ben on va l'aimer, on va développer iman billah. Parce que si notre iman billah, c'est juste que Allah est unique, Allah nous a créé, Allah donne la vie, donne la mort, donne la santé, donne la maladie, c'est déjà bien, mais ce n'est pas suffisant. Et le nom qu'on cite le plus souvent dans les interventions, c'est Al-Latif, c'est certainement un des noms qui nous a le plus marqué, parce que quand on vit une situation d'épreuve de notre vie, quelle que soit la nature de l'épreuve, ça peut être la santé, ça peut être la famille, ça peut être les problèmes financiers, quelle que soit la nature de l'épreuve, à mon humble avis, ça c'est par expérience et approche personnelle, je trouve un certain réconfort dans le nom Al-Latif, Allah qui est le bienveillant, parce que dans l'étude du nom Al-Latif, on sait qu'Allah te connaît personnellement, il connaît chacun de ses serviteurs, et Allah te prédestine ce qui est mieux pour toi, parce qu'il est bienveillant. Et quand il te prédestine des bienfaits, il te prédestine également des épreuves. Et donc, tu as cette intime conviction que quand l'épreuve me touche, c'est l'épreuve qui vient d'Allah et qui a été envoyée par Allah. C'est un dosage unique pour chacun de ses serviteurs qui touche un secteur de ta vie et à une intensité précise. Et Allah contrôle l'épreuve. Tu n'es pas accablé. Tu ne vas pas mourir de ça. Ou si tu meurs de ça, c'est qu'Allah a décidé que tu quittes ce monde par la grande porte. Parce que mourir dans une épreuve, c'est sortir de ce dunya par la grande porte. Par la porte où, parce que l'épreuve, c'est par excellence le filtre des péchés, l'épreuve. Quand on passe par l'épreuve, les péchés ne traversent pas l'épreuve. Les péchés tombent avec l'épreuve. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous avait rappelé que ma yazalu al-bala'u bil-'abd al-mu'mini hatta yatrukahu yamshi 'ala al-ard wa ma 'alayhi min khati'a. Ou comme a dit alayhi salatu wa salam, le mu'min est accablé par des épreuves de façon continue. Il y a des gens comme ça qui ont des épreuves qui ne les lâchent pas. On dit que le gars n'a pas la chance, il finit il commence et ainsi de suite. L'épreuve le touche de la tête aux pieds, du premier jour de l'année jusqu'au dernier. Et quand il y a une épreuve qui s'en va, il y a une autre qui s'installe. Quand Allah décide de cumuler les épreuves pour son serviteur, c'est qu'Allah lui veut un bien immense. Et la suite du hadith, à un tel point, c'est-à-dire un tel point qu'il est prouvé, « Yamshi ala al-ard », il marche sur la terre, c'est-à-dire il est parmi nous. Il vit parmi nous, alors que dans son livret de compte, il n'y a plus de khati, il n'y a pas le moindre péché. Chaque fois que l'épreuve te rappelle la douleur, à chaque fois que ton cœur serre, parce que tu as une épreuve qui t'accompagne depuis des années, sache que, comme Abu Bakr al-Siddiq, radiallahu anhu, avait posé la question, il a eu la réponse, que la tristesse, la mélancolie, la tristesse du musulman, c'est déjà un palier d'épreuve qui vient d'Allah. Quand ton cœur est triste, d'accord, c'est qu'Allah t'éprouve par cette tristesse. Donc quand on a une épreuve qui perdure par une situation qui nous est personnelle, ben à chaque fois que le mu'min a le cœur qui serre, ben c'est l'épreuve qui est en train de revenir et qui, inshallah, en espoir, qui te relave sans arrêt de tes péchés. À une seule condition, c'est de ne pas s'en plaindre. Faut pas expliquer à tout le monde tes épreuves. Garde ça entre toi et Allah. C'est pas extrapolé de le dire, mais c'est un cadeau qu'Allah te donne, ça, l'épreuve. Parce que Allah éprouve par les bienfaits, mais Allah éprouve également par les difficultés. Et il n'y a rien de plus profitable. Parce que dans le hadith, ça me dit que les termes du hadith ne me reviennent pas. Lorsqu'Allah aime une personne, Allah l'éprouve. Et ce n'est pas pour rien si les anbiya, les prophètes, étaient les plus éprouvés. Ashadunna si bala'an al. Le summum de l'épreuve de maladie a été vécu par qui? Ayyub alayhi salam. Le summum de n'importe quelle difficulté, que ce soit trahison des proches, c'était avec Yusuf alayhi salam, et ainsi de suite. Chaque nabi a vécu une épreuve est vraiment le summum de l'épreuve. Moussa alayhi salam, l'épreuve de la peur, l'épreuve du dirigeant, du tyran, de sa tête qui était mise à prix, des gens qui voulaient le tuer, qui le recherchaient, et ainsi de suite. Chaque nabi a vécu ces difficultés. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a eu tout en même temps. Il a eu le décès. Tout le monde est mort de sa famille. Son père est mort avant sa naissance. Sa maman est morte, il était petit. Il a été adopté par son grand-père est mort. Il a été adopté par son oncle Abu Talib, son oncle est mort. Il aimait Khadija radiallahu anha, Khadija est décédée. Il a perdu sa première fille. Il a perdu sa deuxième fille. Il a perdu un enfant, un fils, ainsi de suite. C'était une des épreuves que le Prophète a vécues. Le Prophète a vécu la trahison, comme Joseph, comme Youssef alayhi salam. Il a été trahi par ses proches, par ses oncles, par les Quraysh, par ceux qui disaient de lui Al-Amin, et qui ensuite l'ont traité de sorcier, de menteur, et de personne remplie de cupidité qui voulait s'accaparer les biens et le pouvoir de Makkah, et ainsi de suite. Le Prophète a été éprouvé par la maladie, le Prophète a été éprouvé par la sorcellerie, la bide qu'il avait ensorcelée. Le Prophète alayhi salatu wassalam a été éprouvé par des coups et des blessures. À Taïf, n'a-t-il pas saigné jusqu'à ce que le sang Moubarak remplissait ses sandales et ses pieds collés à ses chaussures. Le Prophète a été éprouvé à Uhud, il a été frappé d'une pierre où son casque est rentré dans sa joue, il avait une dent cassée, il est tombé dans un trou, il a été insulté. Le Prophète a été atteint dans sa propre famille. On a accusé Aïcha radiallahu anha de la pire des choses, hadith ul-if, al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est le modèle dans le comportement, mais c'est le modèle de réaction face aux ibtila, face aux épreuves. Donc, ikhwani fillah, il faut qu'on ait une vision très large de la vie et réaliser que la vie, ça passe. On a 40 ans, moi j'ai eu 40 ans cette année, je suis très content parce qu'il ne reste plus beaucoup. C'est pas que la personne n'aime pas la vie, mais le fait de savoir qu'on a dépassé 40, très souvent on me dit, ben 40, j'espère que c'est plus que la moitié. Mais il reste plus beaucoup, Inch'Allah. Ben, après, on ne souhaite pas de maladie, rien. Mais on se dit que ben, si Allah nous reprend, ben, alhamdoulilah. En espérant qu'on soit clean. Clean dans le sens où on a demandé régulièrement pardon pour les péchés. Parce que la vie, c'est quoi? Combien de personnes on a enterré? Combien de janaza nous avons porté? Ben, kullu nafsin dha'iqatul maut. On ne doit pas voir cette vie comme... On ne doit pas se faire une fixation sur sa vie, que il faut que je réussisse telle chose, j'ai des objectifs, je dois avoir cette villa, je dois avoir cette voiture, je dois avoir... Celui qui va vers ses objectifs, il est comme ce qu'on avait lu dans la surah Tabarak al-Ladhi, que les kuffar sont fi ghurur, l'illusion. Tu es dans la brume, tu as l'impression que ça s'abrille, mais ça s'abrille aux yeux des gens. Pour Allah, ça ne brille pas. Le Prophète dit que si ce dunya avait plus de valeur pour Allah que l'aile d'une mouche, d'un moustique, Allah n'aurait pas donné une gorgée d'eau à ceux qui le désobéissent. C'est-à-dire que ce dunya n'a aucune valeur pour Allah. Quand tu vois qu'Allah a donné un monument ou un empire à Fulan et Fulan, ne sois pas jaloux, ça vaut rien ça. Ne sois pas jaloux. Ne souhaite pas la même chose. Si Allah te donne la foi, la santé, ou même les épreuves, mais qu'Allah te permet de te prosterner 5 fois par jour devant lui, ça a plus de valeur que son bâtiment, que son gratte-ciel, que son empire. Parce que si tu meurs avec ce tawhid, avec ce ta'a, avec l'éloignement des péchés, فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ فَقَدْ فَازَ خلاص. Si tu arrives à t'éloigner de l'enfer, à te protéger de l'enfer, et réussir par le paradis, فَقَدْ فَازَ خلاص. اشتبغى. Qu'est-ce que tu veux d'autre? C'est le fawzul azim. C'est le plus grand succès. Mais nous manquons de clairvoyance. Nous manquons de basira. Nous manquons d'objectifs. En fait, on a des objectifs, mais nos objectifs ne sont pas de très haut niveau. Nos objectifs sont un peu terre à terre. Je parle pour moi en premier. On voit nos enfants seulement, leur réussite, qu'est-ce qu'il va faire plus tard, quel diplôme il aura, quel travail il aura. Moi-même, comment je finis le mois? Là, on est combien là? 14. 14, il reste déjà. 14, il commence à les pattes, il commence à le temps, je vous assure. Qadar Allah. Alhamdulillah ala kulli hal. Le but, c'est pas juste quand mes allocs sont versés, quand je gagne mon salaire. Ça, c'est des visions à court terme. Certes, il faut manger, oui. Vois plus loin. Et on a replayé, transféré un post sur les réseaux sociaux qui était écrit par je sais pas qui, mais qui était très bien. J'ai trouvé ça très beau concernant l'éducation des enfants. Tu as des enfants? Allah yahfadhum. ويوفقهم ويهديهم للصراط المستقيم. Et cette personne écrit que le jour de Qiyama, tes enfants ne te reprocheront jamais de ne pas les avoir amenés dans tel pays, tel pays, tel pays. Ils ne vont pas dire, oh Allah, mon papa ne m'a jamais amené voir la Tour Eiffel, ou il ne m'a jamais amené à Disneyland, ou il ne m'a jamais amené à Legoland, ou à je ne sais pas moi, et ainsi de suite. Ou qu'il ne m'a jamais donné les derniers baskets Nike, ou le dernier complet. Il a réalisé ce que les jeunes aiment. Il ne m'a jamais donné tel appareil, jeu vidéo, ainsi de suite. Là, par contre, si nous n'avons pas éduqué nos enfants dans le tawhid, l'unicité d'Allah, l'adoration d'Allah, iqam al-salah, l'accomplissement de la prière, le jour de Qiyama, nos enfants témoigneront contre nous. Même quand ils sont adultes, je veux dire, ils vont dire qu'on n'a pas eu l'éducation. Parce que « Kullukum ra'in wa kullukum mas'oulun an ra'iyyati » Nous sommes tous des bergers. Et chaque berger sera questionné. « Mas'oul » En grammaire, comment on appelle mas'oul? Isme maf'oul, celui qui subit l'action. Celui à qui la question sera posée au jour de Qiyama. C'est-à-dire que chaque père de famille et chaque maman auront à répondre à propos de leurs enfants. Qu'est-ce qu'ils ont fait de ce bienfait et quelle éducation, quel ta'alim, quel tarbiya on a donné. Donc, faisons en sorte d'éduquer nos enfants, comme on a dit, sur l'unicité d'Allah, faire entrer l'amour dedans de leur cœur, leur donner l'habitude d'accomplir leur salat. Le dîn est simple, ikhwan fillah. Ceux qui disent que le dîn est compliqué, c'est qu'ils n'ont pas compris la religion. C'est une relation entre nous et Allah qui passe par les piliers et qui passe par les branches de la foi. Et du moment que notre enfant a compris les branches de la foi et la mise en pratique les piliers, le reste va suivre. Tout ce qui est bon comportement, akhlaq, mu'amala, tout ça, ça va venir, inshallah, car nous permettre d'avancer ensemble. On a besoin d'avancer ensemble dans le droit chemin. On va conclure, le timing est terminé. Ben, comme on s'est réunis pour le tafsir, on devait terminer, mais je pense qu'on est comme Ya'juj ou Ma'juj. Chaque fois on dit on va terminer, mais comme on ne dit pas inshallah, le mur se refait. Mais khairan, inshallah. Il y a un verset de As-Sa'di, rahimahullah, et on devait commencer par ça ce soir, j'ai oublié de le lire d'ailleurs, quand notre Rabb nous a révélé les qualités des personnes qui, eux, ne sombrent pas dans les erreurs de beaucoup d'êtres humains. Et après avoir cité les 9 sifat, Allah conclut le verset par « Ulaika fi jannatin mukramun ». Ulaika fi jannatin mukramun. En traduction, ceux-là seront honorés dans des jardins. Et quand on parle des jardins, c'est le jannah, le paradis. Il y a Sa'di, rahimahullah. Il nous dit أي قد أوصل الله لهم من الكرامة والنعيم المقيم ما تشتهيه الأنفس إلى آخر الكلام. Allah va gratifier ces mu'mines qui sont restés dans le droit chemin, qui ont développé ces 9 qualités et les autres, par un paradis, une demeure, la consécration ultime, ce qu'aucun n'a jamais vu, aucun n'aurait jamais entendu, aucun ne peut imaginer. Wahum fiha khalidun, et ils y resteront éternellement. Et rajoutez que laysatil ibra, sache aux musulmans que le plus important, ce n'est pas ce que les gens pensent de toi de ce monde. Ce n'est pas la vie que les gens ont de toi. Ce n'est pas l'opinion que les gens ont de toi. Mais bien sûr, essayer d'avoir le meilleur des comportements. Me dire que le plus important, ce n'est pas l'argent que tu as cumulé ou l'honneur que tu as eu de ce monde. Le plus important, c'est comment est-ce que ton Seigneur t'accueille le jour de Qiyama. Et quelle décision Allah prend pour toi. C'est ça le plus important. Donc, respecte les ordres de ton Seigneur. Si on va suivre la société, on va faire plaisir à monsieur tout le monde, parce que lui il est riche, donc je fais ce qui le plaît. Lui il est important, on va le suivre comme un petit toutou. On va essayer de se soumettre à l'appréciation et au désir des êtres humains pour les faire plaisir. Mais on désobéit notre Seigneur, notre Créateur. L'exemple d'une dame qui, Allah Musta'an, avait une tenue vestimentaire correcte, très correcte, mashallah, pudique. Elle a eu un travail et elle s'est dit qu'avec cette tenue, ça ne va pas aller. Alors, est-ce qu'elle avait grandement besoin d'argent, Allahu a'lam, ou alors c'était un désir de carrière professionnelle, et au fur et à mesure, Allahu musta'an, sa tenue s'est dégradée jusqu'à arriver à une tenue qui ne correspond plus du tout à la croyante, parce que il fallait faire plaisir à son patron, parce qu'il fallait passer comme tout le monde par rapport aux collègues, par rapport à la clientèle, et pour avoir ce salaire, est-ce que pour un SMIC, ou même si c'est un SMIC et demi, même si c'est deux SMIC, est-ce que ça valait le coup de désobéir à ton Seigneur délibérément? Désobéir à Allah pour suivre des créatures, pour avoir un risque qui vient d'Allah. Vous voyez comment c'est incohérent. Qu'Allah nous protège donc de prendre ce chemin, on va rechercher la satisfaction des créatures. Et en mettant de côté, en oubliant le regard de notre Seigneur qui est sur nous, n'oublions jamais qu'Allah est Sami' al-Basir, Alimun bidhati as-sudur. Tout ça, ça éveille la foi. Quand tu es, je reviens vers l'histoire de l'arrêt de bus, m'a pas vu rien à l'arrêt de bus, n'ayez aucune mauvaise pensée, mais imaginez, vous arrivez près de l'arrêt de bus et qu'il y a cette bombastique qui est là tout le temps, le même heure. Tout le temps, il prend le même bus que vous, et que, elle est compliquée, parce que mon sim est bien foutu, et que les regards, je parle pas, donc du coup, c'est bon. Et pense à ce qu'on a dit tout à l'heure, mais pense également qu'Allah est Sami' Basir, Basir, qu'Allah voit tout. Allah, il connaît de virer tout année. Allah, il connaît quand on regarde. Allah est Sami', Allah entend. Quand tu dis, bonjour mademoiselle, ça va? Oui, très bien. Pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu le dis? Allah sait pourquoi tu le dis. C'est quoi ton objectif? Alimun bidhati as-sudur. Allah sait ce qu'il y a dans la poitrine. On peut tromper n'importe qui. On peut tromper nos parents, nos voisins, notre épouse. Tromper dans le sens, pas tromper le mauvais modèle, tromper dans le sens, faire croire. On peut tous jouer un rôle dans la vie. Je peux avoir le costume de Fundi, de Molissa. Je peux vous faire croire n'importe quoi. Son grand bam, machin, c'est le meilleur des meilleurs. Et dans le fond, parfait hypocrite, qu'Allah nous protège. Mais on ne trompe pas notre Seigneur. On ne trompe pas notre Rabb, parce qu'il est alimun bidhati as-sudur. Personne n'a le droit de juger ce qu'il y a dans le cœur de quelqu'un. Personne ne peut dire que non, ça c'est quelqu'un de bien. Aïe, c'est un monde les pieds à Dieu. Taqillah, qui t'a révélé ça? Qui t'a dit? Mais Allah est le seul qui sait ce qu'il y a dans le cœur. Donc, devant notre Seigneur, yawma tublas sarair, le jour où les secrets, traduction approximative, tout ce qui est dedans là, ça va ressortir. Et aux yeux de la Ummah. Et là, on verra les pieux, les hypocrites, les pécheurs. Qu'Allah nous protège d'une humiliation ce jour. Et qu'Allah nous permette, nous tous qui sommes présents dans cette salle, dans cette masjid, d'être sous l'ombre de son trône le jour de Qiyama. Qu'Allah nous accueille de la meilleure des façons. Que nous mourrons avec la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Que lorsque nous quittons ce monde, notre âme est prise par des anges. Et notre ruh est mise dans des kafans de nour et de parfum. Et il monte au ciel, et qu'à chaque ciel, on obtient l'autorisation des anges pour continuer, jusqu'à ce que notre âme se prosterne devant Allah, et qu'Allah révèle, et nous accueille, et annonce la bonne nouvelle que c'est un serviteur qui est accepté, et que notre ruh redescend de notre corps dans la tombe. Et ensuite, lorsque les anges viennent nous poser des questions, les trois questions que nous répondions avec grande facilité, parce que ça va émerger du cœur, et que notre tombe soit un jardin parmi les jardins du paradis, et que notre place du paradis nous soit montrée régulièrement, et qu'on a cette brise du Jannah, et que le jour de Qiyama, nous sommes ressuscités ma'an nabiyyin, wa siddiqin, wa shuhada, wa salihin. Et qu'après cette résurrection, nous sommes appelés pour aller sous l'ombre du trône d'Allah, Rabbul Izza, et que nous ne connaissions aucune difficulté en ce jour, et que nous recevions notre livret de compte de la main droite, sans hisab. Et qu'on passe le surat à la vitesse de l'éclair, et que nous entrons dans le Jannah, donc sans rendre compte. Et ذلك الفوز العظيم, qu'Allah nous l'accorde, ma tawfiq illa billah, et qu'Allah nous l'accorde, et que dans le Jannah, on retrouve notre papa, notre maman, notre grand-père, notre grand-mère, notre épouse et nos enfants. Jannat wa adn yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyatihim. Qu'Allah nous accorde, si on l'a obtenu, c'est le plus grand cadeau qu'Allah peut accorder à un serviteur. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.